Un livre qui sort cette semaine risque de faire grand bruit. Il apporte des preuves, après une longue enquête, des liens de Donald Trump avec la mafia, liens qui remontent à très très loin et qui a permis, selon ce qu'affirme l'auteur Fabrizio Calvi, à Donald Trump de gagner l'élection présidentielle. L'auteur qui a des contacts étroits avec d'anciens chefs de la CIA, qui a aussi écrit d'autres livres enquête sur les États-Unis, fait ressortir ici des faits plus que troublants. Le livre s'intitule « Un parrain à la Maison-Blanche ». Fabrizio Calvi est avec nous. Bonjour ou bonsoir, Fabrizio Calvi.
Bonjour.
Alors, personne en ce moment n'essaie d'empêcher la parution de votre livre, parce qu'on sait qu'en ce moment, le livre de la nièce de Trump fait grand bruit et ils font beaucoup pour empêcher sa parution.
Oui, c'est différent. D'abord, c'est un livre en français. Vous savez, les Américains, la France, ils ignorent à peu près même où c'est. Mais surtout, ce que Trump n'a pas supporté sur le livre de sa nièce, c'est la trahison familiale. Vous savez qu'il fonctionne comme un parrain, et un parrain, eh ben, ça s'appuie uniquement sur la famille. Donc il faut que la famille lui soit dévouée et ne trahisse pas. Il s'est passé à peu près la même chose avec Bolton, où il a essayé de faire interdire le livre, parce que Bolton faisait partie à un moment du premier cercle présidentiel. Donc ça, le parrain, la trahison, il ne supporte pas. Après, des gens qui écrivent de l'extérieur, j'ai l'impression que ça le touche un peu moins.
Bon, maintenant, parlons des faits troublants que vous révélez dans ce livre. Les liens de Trump et de la mafia remontent, d'après ce que vous dites, puisque vous avez les preuves, aux années 70. Quel était l'intérêt de Trump à ce moment-là?
Trump, c'était un jeune homme ambitieux qui voulait faire de l'argent, qui voulait se démarquer de son père, Fred, qui était déjà millionnaire ou milliardaire dans l'immobilier, voulait aussi partir dans l'immobilier, mais faire creuser son sillon. Et en fait, le père, par exemple, Fred Trump, ne voulait pas aller à Manhattan, alors il estimait que c'était avoir un siège sur le Titanic, tellement Manhattan allait mal à l'époque, et Trump, lui, a compris qu'il fallait faire des affaires et qu'il fallait faire des affaires là-bas. Mais il y a un petit peu plus, il y a un plus. Un des proches de Trump disait qu'il n'aimait pas faire de l'argent pour faire de l'argent, mais que ce qu'il lui fallait, c'était un petit frisson, une petite sensation de voler. Il fallait qu'il y ait quelque chose de plus, franchir la ligne continue. Et donc, c'est sans doute pour ça qu'il fait des affaires avec la mafia. Et ce qui est remarquable, moi j'ai retrouvé les agents du FBI qui l'ont rencontré à l'époque, la première affaire qu'il devait faire, c'était pas avec n'importe qui, c'était avec un parrain très connu à l'époque, qui s'appelait Meyer Lansky, qui était le parrain des parrains avec Lucky Luciano, qui a façonné la mafia telle qu'elle est aujourd'hui. Meyer Lansky, c'est dans le parrain numéro 2, tout le monde se souvient de la scène du gâteau, c'est lui qui découpe l'île en disant « maintenant on est plus fort que General Electric », ce qui était vrai. Et donc lui, Trump, devait blanchir de l'argent, servir d'homme de paille dans le cadre du rachat de l'hôtel Fontainebleau. Et ça, c'était la première affaire qu'il devait faire, qu'il n'a pas fait finalement, mais quand il a été interrogé par un jeune agent du FBI, il n'a absolument pas nié, il a dit juste que ça ne l'intéressait pas et qu'il a fait autre chose finalement.
Incroyable. Et donc, de fil en aiguille, il a toujours gardé ses liens avec la mafia. Des gens ont acheté des appartements. Il a facilité l'achat d'appartements à des gens pas tellement recommandables. Parlons du lien russe. Jusqu'où, d'après vous, ont joué les Russes pour faire élire Trump en 2016? Et jusqu'où pourrait-il aller pour 2020?
Ils ont été très, 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 très loin. C'est-à-dire que le lien avec les Russes s'articule en deux temps. Vous savez, ça vient après le lien avec les Italiens qui ont aidé Trump à construire son empire, mais concrètement qui ont aidé à construire les tours. C'était les sociétés de la mafia italienne et les syndicats de la mafia italo-américaine qui ont aidé Trump, qui ont fait qu'il a pu construire ses tours. Mais sans les Russes, Trump ne serait rien parce qu'il avait besoin d'argent, il avait besoin de blanchir de l'argent et les Russes ont fourni énormément d'argent à tel point que on s'est aperçu au moment où il arrivait à la Maison-Blanche, c'était le premier client d'un établissement financier qui s'appelait la Deutsche Bank. Toutes les autres banques ne voulaient pas lui prêter. la Deutsche Bank lui avait prêté quelque chose comme 2 milliards, plus de 2 milliards de dollars, et on s'est aperçu en fait que cet argent avait été souscrit par une banque russe, dirigée par une banque d'État, dirigée par un proche de Poutine. Donc au niveau financier, il y a un gros effort de fait, et puis il y a eu un effort de fait au niveau des services. Robert Mueller, l'enquêteur spécial, a très bien démontré comment le GRU, les services militaires russes, ont créé une unité spéciale de hackers afin de se mettre au service de Donald Trump en pratiquant du data mining et puis toutes sortes de fausses informations, de fake, et en allant piller même les emails des adversaires de Trump, entre autres Hillary Clinton. Donc il y a eu un effort considérable de fait, effort qui a été payé, qui a payé pour Poutine, puisque Trump était un peu son obligé, et on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de la politique étrangère de Trump se rapproche de celle de Poutine.
Parce qu'effectivement, quand on se fait faire des faveurs aussi énormes que de pouvoir siéger à la Maison-Blanche, ça se paie. Et donc, d'après vous, Donald Trump continue de payer de par ses attitudes, de par ses choix qu'il essaie de justifier autrement.
Mais il est clair que si, faisant abstraction de tout lien avec la mafia, avec les Russes et autres, il est clair que sa politique étrangère est difficilement lisible. Le fait qu'il soit pro-Brexit, qu'il soit anti-européen, il veut retirer les troupes américaines d'Allemagne, les troupes américaines qui étaient là depuis 1945, qui est un symbole quand même très fort de l'opposition à la Russie, le fait qu'il communique systématiquement des informations aux Russes, que même il ne croit pas, il le dit, il a fait une conférence de presse avec Poutine sur l'interférence russe, et il dit, ben voilà, mes services disent qu'il y a interférence du côté des Russes, moi j'ai préféré le demander à Poutine, et Poutine m'a dit que non, alors je crois Poutine.
Incroyable.
Donc,
incroyable.
Il est, le problème est de savoir si c'est un agent ou si c'est ce que les anciens dirigeants de la CIA appellent un asset, c'est-à-dire une prise, c'est une prise de guerre, un bien des services secrets. En tout cas, il se comporte, sinon comme l'obligé, en tout cas comme un très proche de Poutine.
Et prend des décisions qui font l'affaire de Poutine. D'après vous, est-ce que vous avez pu découvrir quand même des choses que les Russes savent en ce moment qu'ils ne devraient pas savoir?
Eh bien, par exemple, c'est la fin de mon bouquin. Les Israéliens avaient organisé une opération d'infiltration de l'État islamique. Ils avaient une taupe à l'intérieur de l'État islamique. Ils avaient mis un système d'écoute. Et Trump, informé de la chose, s'est empressé d'informer les Russes. Quand on sait le rôle que jouent les Russes en Syrie, c'est une information très importante et qui peut être très dommageable, je dirais, au service israélien. De même, si vous voulez, la CIA avait dans l'entourage de Poutine quelqu'un qui avait accès à Poutine, une taupe très haut placée, qu'ils ont rapatriée d'urgence de crainte que Trump la trahisse. Donc, si vous voulez, on est à un niveau quand même assez fort d'affrontement, oui, même à l'intérieur de l'appareil d'État américain.
Si jamais Trump décidait de changer un tout petit peu de trajectoire et commençait à prendre des décisions un peu moins pro-russes, est-ce qu'il serait vraiment en danger ou pour vous, c'est une impossibilité qu'il change? Il est trop pris dedans.
Vous savez, avec Trump, tout est possible. On l'a vu avec un masque, même s'il le mettait bas, alors qu'il appelait les gens à manifester et que les gens manifestaient armés contre le port du masque pour lutter contre le virus. Tout est possible. C'est quelqu'un, qui est tout le temps en guerre. Il peut retourner. Pour Poutine, c'est un allié. C'est une bombe. C'est une bombe à retardement, Trump. Trump applique. Mais à la lettre, à la théorie de Nixon, qui est la théorie de l'homme fou. C'est-à-dire que si l'adversaire en face sait que vous avez affaire à un fou qui est prêt à appuyer sur le bouton nucléaire, eh ben, il va hésiter à y aller. Et c'est vrai que Nixon, par exemple, à un moment, voulait bombarder la piste Ho Chi Minh nucléaire, bombarder avec une bombe nucléaire la piste Ho Chi Minh au Vietnam, mais il n'a pas osé le faire. Alors que Trump, lui, a menacé la Corée du Nord de foudre nucléaire, et tout le monde savait qu'il le ferait. D'ailleurs, on le redoutait. Donc, pour répondre à votre question, tout est possible, y compris, j'allais dire, une défection de Trump. Et on l'a vu se rapprocher des Chinois. À un moment, c'est ce que révèle Bolton, à un moment, il a demandé l'aide à la Chine pour les élections, pour gagner les élections de 2020-2021. Donc, il y a un espèce d'opportunisme de sa part. Il est tout le temps prêt à trahir au profit de ses propres intérêts. Et là, en l'occurrence, il fera tout pour se maintenir à la Maison-Blanche.
Donc, vous iriez jusqu'à dire que c'est vraiment comme la marionnette de Poutine, Donald Trump, pour l'instant?
Je ne sais pas. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en même temps, il doit faire avec, malgré tout, avec même s'il a bien nettoyé son administration, il doit faire quand même avec des résistances au sein du Pentagone, au sein du Congrès et un petit peu moins au sein du Sénat républicain, mais il y a quand même une forte opposition républicaine qui commence. Donc, il ne peut pas être entièrement la marionnette de Poutine, et il a une très grande marge de manœuvre, mais une marge de manœuvre qui est quand même relativement limitée.
Tout à fait. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, quand vous regardez la résistance féroce de Trump à cacher ses déclarations, à présenter ses déclarations de revenus, qu'est-ce que vous y voyez? Quelle est votre lecture?
Ben, le problème de Trump, si vous voulez, c'est qu'il a toujours été en faillite, régulièrement en faillite, et qu'il a toujours trouvé de l'argent. Et qu'il y a un moment, les sources d'argent, on savait ce que c'était les grandes banques américaines, jusque dans les années 90. À partir des années 90, à partir du moment où les grandes banques américaines ne veulent plus entendre parler de lui, il va se tourner vers d'autres établissements, comme la Deutsche Bank, ou comme d'autres établissements contrôlés par les Russes, et là, ça commence à devenir un petit peu embêtant. En outre, ce qu'il ne veut pas dire, c'est l'état de sa fortune, parce qu'il a poursuivi, une des seules fois où il a poursuivi un journaliste, c'était un journaliste du New York Times, parce que le journaliste du New York Times prétendait, en se basant sur des documents bancaires de la Deutsche Bank, que Trump valait 700 millions de dollars, ce qui est beaucoup. Mais lui, Trump disait, non pas du tout, je vaux 3 milliards. Et dans ces 3 milliards, il mettait son nom. Il disait, le nom Trump, ça vaut parce qu'il y a les tours, on peut franchiser, il y a je vends de la viande, enfin, il vend toutes sortes de produits sous ce nom. Mais normalement, comptablement parlant, vous ne pouvez pas mettre le nom comme une valeur, mais lui, il le met. Ça peut sembler un débat, un peu futile, mais pas du tout, parce que selon que vous ayez 700 millions de dollars ou 3 milliards de dollars, vous ne pouvez pas emprunter les mêmes sommes. Et avec 700 millions de dollars, ben vous empruntez un petit peu, déjà beaucoup, mais avec 3 milliards, ben vous empruntez ce que vous voulez. Donc l'enjeu pour lui, il est aussi là. C'est-à-dire, d'une part, de masquer la provenance de certains fonds, mais d'autre part, de ne pas couler sur l'organisation et d'avoir des lignes de crédit toujours ouvertes auprès de son organisation.
En terminant, Fabrizio Calvi, si je vous demandais s'il y a une chose que vous aimez de Donald Trump, puisque vous l'appelez le parrain à la Maison-Blanche avec un prénom pareil, le don de la Maison-Blanche, est-ce que quelque chose que vous admirez chez lui?
C'est difficile à dire. Je ne peux pas dire admirer, tout le monde va me tomber dessus. Mais en même temps, je suis ébahi, voilà, c'est plutôt ébahi, par son culot, sa résistance, sa capacité à rebondir systématiquement et son absence de total de scrupules. C'est ce que je mets dans l'avant-propos. Je cite Dennis Lane qui dit « Cet homme était capable de tout, absolument tout. C'était la condition requise pour se maintenir au sommet de la hiérarchie, savoir montrer à la concurrence qu'on avait depuis longtemps fait une croix sur sa conscience. » Eh bien, la manière dont il le fait, la manière dont, on n'a pas beaucoup parlé de la mafia italienne, mais la manière dont il travaille avec la mafia italienne et en même temps il trahit la mafia italienne en allant voir le FBI et en bénéficiant de la protection du FBI, parce que c'est comme ça, parce que malgré tout, ce bonhomme, 45e président des États-Unis, aurait dû être renvoyé devant les tribunaux, mais des dizaines de fois. À chaque fois, pratiquement, il se faisait prendre les doigts dans le caramel. Eh bien, à chaque fois, il s'en sort parce qu'il passe des deals avec le FBI et avec d'autres administrations en disant bah, « Écoutez, moi, je vais vous balancer des parrains et en échange, vous me laissez faire ce que je veux. » Ou alors, il achète carrément les gens. Ça a été la vraie surprise pour moi de cette enquête. C'est le niveau de corruption du système américain.
Incroyable. Écoutez, votre livre sort au Québec cette semaine, mercredi plus précisément, Un parrain à la Maison-Blanche. Fabrizio Calvi, on ne peut que souhaiter qu'il sera rapidement traduit en anglais et publié pour que les Américains le lisent attentivement avant l'élection de novembre, si ça peut faire une différence. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.